Bon, mais c'est ça, c'est effectivement CKUT 90.3 FM.
Yo!
Yo! On accueille Marie-Ève de la Patrie des Anonymes. Ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va? T'as repris ton souffle?
Oui! Petit sprint à vélo juste avant de venir. Question de bien souffler dans le micro.
Oui, c'est ça. Moi, je fais pareil. Fait que, inquiète-toi pas. T'es pas la seule.
Ben écoute, aujourd'hui, je vais commencer en fait, parce que, tu sais, les Apatrides Anonymes, en fait, ont fait la chronique ici en profondeur depuis quand même plusieurs années. Ça fait, je pense, depuis 2010, donc 6 ans. Puis un des avantages, ben des fois, on peut avoir l'impression de radoter parce que les mêmes nouvelles, genre, reviennent souvent, tu sais, puis la situation en immigration ne change pas vite. Par contre, l'avantage, c'est que ben on peut faire vraiment du suivi de dossier.
Oui.
Et parfois, il y a des bonnes nouvelles. Donc, comme c'est rare, j'ai décidé aujourd'hui de commencer par une bonne nouvelle en cette journée de pseudo-été. D'abord, je sais pas si ben pour certains auditeurs auditrices, si vous vous rappelez on vous avait parlé aux Apatrides. En 2013-2014, là, d'une émission de télé-réalité qui s'appelait Border Security. Ça existait depuis 2013. C'était produit par le National Geographic Channel et en collaboration avec les services, l'Agence des services frontaliers du Canada. Le concept, en fait, comme je le disais, c'est une télé-réalité basée sur le travail de l'agence et qui met en scène des agents de l'agence à l'œuvre dans leur travail, soit des postes frontaliers, des aéroports, etc., ainsi que des personnes dont le statut d'immigration est précaire et sans leur consentement. Donc, ces personnes-là sont filmées, c'est une télé-réalité. Il y avait un épisode qui avait fait particulièrement réagir en 2013 parce qu'il y avait eu un raid, l'agence avait effectué un raid sur un chantier de construction à Vancouver où plusieurs sans-papiers avaient été arrêtés et dont au moins 8 ont été déportés depuis. Donc, cet événement-là avait suscité une campagne pour empêcher que cet épisode-là soit diffusé. La campagne mon Dieu, je pense en anglais, je m'en ai dit successful. La campagne a réussi, en fait. L'épisode n'a jamais été diffusé. Mais la campagne s'est quand même, depuis ce temps-là, attelée à la tâche d'empêcher la continuation de l'émission. Là, je fais un petit retour historique parce que ça fait quand même longtemps. En mai 2014, le président lui-même de l'Agence des services frontaliers avait écrit dans une note des services, j'ouvre les guillemets, ne pas être en mesure de recommander le soutien à une troisième saison de Border Security. La note soulignait également la colère des groupes de défense des libertés civiles envers l'émission et le fait aussi que l'agence faisait face à une plainte formelle relativement à la protection de la vie privée. Donc, le président concluait que le ratio avantage-inconvénient était discutable. Qu'à cela ne tienne, le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Stephen Blaney, avait donné son accord pour reconduire une troisième saison contre l'avis du président de l'Agence des services frontaliers elle-même. Alors, la semaine dernière, le commissaire à la vie privée a rendu une décision appelant l'Agence des services frontaliers à cesser sa participation à l'émission qui filme, comme je l'ai dit, des personnes migrantes en situation vulnérable qui sont soit en train d'être interrogées, détenues ou déportées. Il a affirmé que l'agence violait plusieurs dispositions clés de la loi sur la protection des renseignements personnels en participant à cette émission-là. Il a aussi affirmé que les gens qui se retrouvent dans cette émission-là ne sont pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé en raison du genre de situation dans laquelle ils se trouvent, où évidemment c'est des situations où la peur est en jeu, coercition, puis un rapport de force qui est très inégal, évidemment aussi. Donc, finalement, suivant les recommandations du commissaire et la pression de la campagne publique également, l'agence a finalement décidé de mettre fin à sa collaboration à l'émission. Il y avait une plainte formelle qui avait été déposée auprès du commissaire par l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique au nom de Oscar Mata Duran, qui est un Mexicain qui avait été arrêté lors du raid de 2013 sur le chantier de construction à Vancouver dont je vous parlais, puis qui a été, lui, déporté depuis. Toute cette campagne-là, en fait, évidemment, ça a mobilisé beaucoup de gens, individus et tout, mais également 90 groupes de défense des droits de la personne, dont Amnesty International, l'Association du Barreau, Idle No More, le Congrès canadien du travail. Et puis, à titre informatif, l'Agence des services frontaliers fournissait à l'émission annuellement 200 000 $ en soutien aux communications, en plus, évidemment, de la participation de son personnel à l'émission. Donc, bon, une victoire quand même, une campagne qui dure depuis 3 ans, comme quoi ça vaut la peine parfois de persévérer et de ne pas lâcher, parce que c'était vraiment une émission épouvantable. Je veux dire, écoutez, les déportations, des situations comme ça, c'est pas de l'entertainment, là, c'est pas du divertissement, là, c'est la vie de vraies personnes là, qui est en jeu. Donc, voilà. Alors, on va rester, puis aujourd'hui, en fait, aussi, on reste au Canada. Nous n'irons pas outre-mer, parce que il y a eu quand même pas mal de nouvelles dernièrement qui concernent immigration, mesures de sécurité au Canada. Donc, prochaine nouvelle qui a un peu passé inaperçue, c'est que le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a annoncé vendredi dernier la création du bureau des demandes. C'est vraiment, vous allez voir, c'est assez juste l'acronyme là, c'est BDRPPP. C'est le, on se croirait en France, le bureau des demandes de renseignement du programme de protection des passagers, dont le mandat est de permettre de mieux gérer les fausses correspondances de noms avec la liste d'interdiction de vol du Canada, liste qui a été établie en 2007. Selon le bureau de M. Goodale, le système va offrir éventuellement, on dit éventuellement, vous allez voir pourquoi, la possibilité aux voyageurs dont les noms ressemblent à ceux de personnes qui se retrouvent sur la liste d'interdiction de vol d'obtenir un numéro d'identification unique qui sera associé à leur nom, qui pourront utiliser ce numéro-là au moment d'acheter leur billet d'avion afin d'éviter tout malentendu ou délai à l'aéroport. Donc, c'est un peu comme, OK, comment régler un problème à la base qui est systémique par juste une mesure bureaucratique? C'est un peu, en tout cas. Donc, ce bureau pourra aider, le mandat spécifique, là, c'est d'aider les personnes qui ont été retardées lors du processus d'enregistrement ou qui ont été contraints à fournir des pièces d'identité supplémentaires au comptoir, les personnes qui ont dû attendre pour obtenir leur carte d'embarquement pendant qu'un préposé appelait les autorités. Ou les personnes qui se sont vues refuser le droit d'embarquer ou qui se sont fait dire qu'ils figuraient sur une liste d'interdiction de vol. Quand je disais éventuellement, c'est que le gouvernement a cependant prévenu que la mise en place de ce système exigeait d'importants changements, évidemment, sur le plan de la réglementation et des systèmes de données, un remaniement qui pourrait prendre plus de 18 mois. Les libéraux seront-ils encore au pouvoir dans 18 mois? Alors, c'est ce qu'on verra. Je vous rappelle que, un des scandales, entre guillemets, autour de cette liste-là, c'est que de nombreux enfants en bas âge se sont retrouvés, pas sur la liste, mais leur nom ressemble ou... Et donc, ont vécu des expériences assez frustrantes là aux aéroports parce que leur nom s'apparentait à ceux figurant sur la liste d'interdiction de vol. Plus tôt cette année, M. Goodale avait rappelé aux compagnies aériennes qu'elles n'avaient pas besoin de vérifier l'identité des enfants dont les noms correspondent à ceux de la liste. Les parents de certains ont toutefois révélé qu'ils ne pouvaient toujours pas acheter de billets pour leurs enfants en ligne à cause de ce problème-là. L'annonce de vendredi représente évidemment quand même là, une petite victoire pour plusieurs familles. C'est du moins ce que considère Khadija Kadji, dont le fils âgé de 7 ans, mesdames et messieurs, a souvent fait l'objet de contrôles à l'aéroport. Alors, le gouvernement a précisé que le nouveau bureau travaillerait en collaboration bilatérale avec les États-Unis là, pour résoudre les erreurs d'identité. Concernant la liste d'interdiction de vol, petit rappel qu'on connaît toujours pas, en fait, combien de personnes se retrouvent sur cette liste-là, parce que le Transport Canada refuse de rendre publiques ces informations-là. En mai dernier, il y a un juge de la Cour fédérale qui a ordonné à Transport Canada de réviser 2 demandes d'accès à l'information sur la base que le ministère n'a pas clairement expliqué pourquoi les données devaient demeurer confidentielles. Ces 2 demandes d'accès à l'information dataient de 2010 et émanaient d'une journaliste de la presse qui avait déposé 2 requêtes, en fait, une pour le nombre total de personnes qui se trouvent sur la liste et l'autre pour le nombre spécifiquement de citoyennes canadiennes qui y figurent. Le bureau, la commissaire à l'information s'est penchée sur la plainte, contre Transport Canada et a recommandé à l'agence de publier les chiffres, ce que Transport Canada a refusé. A refusé en insistant la journaliste à porter la cause, sa cause devant la Cour fédérale. Donc, de là, le jugement de, en mai dernier. Les raisons pourquoi Transport Canada retient confidentiel ces données, évidemment, on s'y attend tous, là, à invoquer une section de la loi qui leur permet de ne pas révéler des informations qui pourraient interférer avec les déroulements des affaires internationales ou la détection ou la prévention d'activités terroristes. Mais dans son jugement, le juge a déclaré que le ministre n'avait pas utilisé de manière appropriée son pouvoir discrétionnaire selon la loi en retenant certaines de ces informations-là. Puis il a ajouté que Transport Canada n'avait pas démontré de manière satisfaisante son argument selon lequel la publication des chiffres aurait nui aux relations avec les États-Unis ou peu importe l'autre pays. Fait que là, je ne sais pas si Transport Canada vont porter, parce que là, c'est en cours fédéral, d'appel fédéral, je ne sais pas si Transport Canada va se plier à la décision du juge ou s'ils vont porter la cause en appeler à un tribunal plus haut.
Ben, ça pour sera... moi, oui. Là. Ils vont vouloir au moins, s'ils vont se pencher, ils vont prendre le plus long délai là, possible.
Ça, c'est sûr. Autre nouvelle, on a su, évidemment, quand le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait accueillir 25 000 réfugiés syriens, plusieurs personnes se sont un peu inquiétées que ça se fasse aux dépens, en fait, de réfugiés d'autres pays. Il semblerait que ces craintes-là, en fait, aient été justifiées. Ce serait le cas particulièrement, au moins, en tout cas, de ce qu'on sait, là, des réfugiés en provenance de la Colombie et de certains pays d'Afrique. Par exemple, pour l'Afrique, selon Paul Moulangou, qui est directeur du Centre d'intégration pour immigrants africains en Colombie-Britannique, qui est une association qui vient en aide aux nouveaux arrivants, le centre d'aide recevait normalement en moyenne à peu près 5 nouvelles familles par mois depuis son ouverture en 2014. Mais depuis l'annonce du plan d'accueil des 25 000 Syriens par le gouvernement Trudeau en novembre, il n'y a aucun réfugié francophone qui s'est présenté au centre. Le dernier groupe de réfugiés francophones à avoir sollicité les services du centre, c'est une famille de 6 personnes en provenance de l'Ouganda qui est arrivée le 30 octobre 2015. Et, bon, évidemment, le centre est en contact directement avec des camps de réfugiés en Afrique. Puis selon le directeur, M. Moulangou, plusieurs y ont reçu leur statut de réfugié de la part du Canada, mais n'ont pas encore été reçus leur papier comme tel là, pour voyager. Fait que ça, c'est pour l'Afrique. Et quant à la Colombie, l'alerte, cette fois-ci, vient de nul autre que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est que le Canada a eu une entente avec les Nations Unies pour l'accueil de réfugiés colombiens, tu sais, depuis qu'il y a, ben, depuis plusieurs années, mais surtout depuis qu'il y a un processus de paix, entre guillemets, qui est entamé là-bas, parce qu'on sait, les réfugiés, il y a beaucoup de réfugiés intérieurs en Colombie, là, des déplacements intérieurs, comme dans d'autres pays aussi. Mais l'entente actuelle, donc, entre le Canada et les États-Unis pour réinstaller 900 Colombiens qui se trouvent présentement en Équateur, viendra à échéance là, à la fin de cette année. Donc, le représentant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Colombie, Martin Guttwall, a affirmé que le nouvel accord était évidemment souhaitable pour que l'aide aux Colombiens vulnérables, parce que l'aide aux Colombiens les vulnérables est l'une des clés du processus de paix dans le pays. Et donc, jusqu'en 2011, les Colombiens pouvaient faire une demande d'asile auprès du Canada tout en résidant encore en Colombie. Ce programme-là a toutefois pris fin, poussant la majorité des réfugiés à s'en remettre soit au secteur privé, le parrainage privé, ou aux négociations directes dans le cadre de l'entente avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Évidemment, le ministre fédéral de l'immigration, des réfugiés de la citoyenneté, John McCallum, dit que même si beaucoup d'attention est portée aux réfugiés syriens, les migrants provenant d'autres pays sont pas négligés pour longtemps, mais il reconnaît que ces derniers doivent malheureusement s'armer de patience parce que les délais sont plus longs, parce qu'ils sont débordés. Juste à titre indicatif, en termes de délai, en terminant, selon les données de Citoyenneté et Immigration Canada, le temps moyen d'attente pour un réfugié africain ou venant du Proche-Orient et bénéficiant d'un parrainage privé était de 45 mois en 2015.
Sacrifice.
OK. Ça fait comme 4 ans, ça. Et dans certains cas, l'attente pour obtenir le visa d'entrée peut même attendre 69 mois, ça veut dire un peu moins de 6 ans.
Sweet.
Donc, voilà. C'était... J'ai commencé avec une bonne nouvelle, j'ai fini avec une moins bonne. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil.
Ouais.
Et puis, c'est ça. Sinon, peut-être juste vous dire que c'est la dernière chronique des apatrides anonymes pour la saison estivale.
Ouais.
Nous allons, nous aussi, profiter de l'été pour se ressourcer.
Ouais.
Et puis, on va être de retour... Il me semble que c'est fin août, début septembre, là, on va être de retour sur les ondes de CKUTA en profondeur.
Bon, ben on vous remercie encore une fois, puis passez un bel été, Marie-Ève.
Ben toi aussi.
On va se revoir en l'automne.
Tu reviens à l'automne aussi?
Ah, moi, je reste là jusqu'à temps qu'il mette
la porte. T'es un abonné à vie maintenant.
Oh, oui. Parfait. Oh, oui, moi j'aime ça ici. Écoute, merci beaucoup, puis bon, ben bon été.
Bon été à tout le monde.